Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Claire Morin-Gibourg avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. Le Mali rend un dernier hommage à l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. En Ouganda, comparution virtuelle d'un célèbre écrivain qui, selon son avocat, a été torturé en prison. 4 morts et 7 disparus dans un naufrage au large de la Tunisie. Rencontre entre le chef de la diplomatie américaine et son homologue russe à Genève pour tenter de faire baisser les tensions concernant l'Ukraine. Et comme chaque jour, place au journal de la Cannes, présenté par Emmanuel Jultap. Cannes fait une petite pause aujourd'hui et demain après que les derniers matchs de la troisième journée des phases de poule qui ont désigné les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale. Burkina Faso, Gabon ouvre le bal du prochain tour ce dimanche à Limbé dans le sud-ouest du Cameroun. À Yaoundé, pour le journal de la Cannes, Emmanuel Juntap. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir. Les matchs de huitièmes de finale offrent de beaux duels en perspective. En commençant par la première rencontre de ce dimanche entre Étalon du Burkina Faso et les Panthères du Gabon. Les Burkinabés ont cet avantage psychologique d'avoir battu le Gabon 3-0 en match de préparation de la CAN. Le Gabon est l'une des équipes qui a été privée de certains de ses joueurs clés testés positifs au Covid-19. Patrice Neveu, l'entraîneur du Gabon.
Quand vous perdez des joueurs aussi, des joueurs importants aussi. Après, on sait que, bon, ça j'ai l'habitude, il va être composé avec des joueurs de niveau peut-être techniquement moins élevé, mais après, il y a d'autres facteurs dans le football pour être bon sur un match, et, qui sont l'abnégation, qui sont le placement, qui sont le respect des consignes, qui sont la compensation, c'est-à-dire faire une course pour rattraper la faute d'un partenaire. Donc toutes ces choses-là, je les mets en route avec des joueurs qui sont pour certains des jeunes joueurs et qui montent doucement en puissance, mais il faut rester vigilant à leur côté. Quoi. Le Burkina, ça sera un match compliqué.
À Garoua, toujours ce dimanche, le Nigeria, auteur d'un parcours sans faute, 9 points en 3 sorties, affronte la Tunisie, qui a terminé la phase des poules sur une défaite face à la Gambie, 0 but contre 1. Avec 3 points seulement à l'issue du premier tour, les Aigles de Carthage sont loin d'être les favoris de cette rencontre. Les autres matchs des huitièmes de finale s'enchaînent entre lundi et mercredi prochain. Place au bilan de la phase des poules. 68 buts ont été inscrits lors de ce premier tour. L'attaquant camerounais Vincent Aboubakar est premier au classement des buteurs avec 5 buts. Le Sénégal est la seule équipe à n'avoir pas concédé de buts lors des matchs de poule. Les équipes du Nigeria, de l'Égypte, de la Guinée équatoriale et de la Gambie ont pour leur part encaissé un but chacune en 3 matchs. Écoutons à présent le bilan de la phase de poule, tel que perçu par des fans interviewés au stade Omnisports de Yaoundé.
Le niveau de la compétition est élevé, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de joueurs évoluent dans des grands clubs. Et c'est ça qui explique la faiblesse ou alors le niveau bas des grands pays qu'on respectait hier, à l'instar du Ghana qui est parti, qui est sorti de la compétition. On ne peut pas dire qu'il y a eu de petites équipes, vu que dans chaque poule, nous remarquons qu'il n'y a pas de différence, trop de différence au niveau des points. Donc les équipes sont pratiquement au même niveau.
Les premiers matchs, je trouve que le niveau est assez relevé. On a vu les premières les petites équipes, les petites nations, comme on peut dire, ont su s'imposer contre les grandes nations. Et je pense vraiment que la compétition sera vraiment difficile. En tout cas pour la première phase de poule.
À Bamako, l'on évalue aussi le parcours du Mali qui va affronter la Guinée équatoriale en huitième de finale. Le Mali est sorti leader du groupe F avec 7 points. Réaction des supporters maliens au micro de notre correspondant Siaka Traoré.
Il n'y a rien d'extraordinaire et on attend le tour suivant. Sur combien de pays d'Afrique, s'il y a 24, ça veut dire que tu es déjà parmi les meilleurs. On ne peut pas te sous-estimer. Et on attend un peu plus d'eux. Et surtout la vitalité dans le jeu. Souvent, on perd et même content de la façon de jouer. Comment on peut gagner et ne pas être content? La façon de gagner ne nous convainc pas jusqu'à présent. Donc, ils peuvent mieux faire quoi. L'équipe malienne a toujours été moteur diesel. Ça vient petit à petit.
Le Mali qui gagne, les gens s'attendaient à ce que le Mali démontre un nouveau visage. Score fleuve, je dirais pas, mais au moins on aurait dû avoir un autre visage du Mali plus convaincant.
Je suis très ravi. Si le Mali arrive à remporter la Coupe, c'est la meilleure des choses. Très, très convaincu.
À noter qu'en marge de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAF a organisé ce vendredi à Douala le tirage au sort de la CAN 2023 prévu en Côte d'Ivoire, au pays des éléphants. Demain, dans l'après-midi, toujours à Douala, ce sera le tour du tirage au sort des barrages de la zone Afrique pour le Mondial 2022. Les cinq équipes les mieux placées au classement FIFA, à savoir le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie et le Nigeria, seront opposées à l'une de ces sélections, l'Égypte, le Cameroun, le Ghana, le Mali et la République démocratique du Congo. C'est tout pour le journal de la CAN. Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Retour à l'actualité sur le continent à présent. Ce vendredi, le Mali a rendu un dernier hommage à son ancien président, Ibrahim Boubacar Keïta, décédé le 16 janvier à l'âge de 76 ans. Occasion de prières, de témoignages et d'appels à l'union et à la cohésion nationale. Depuis Bamako, le point avec notre correspondant Mohamed Danioko.
C'est à la base du génie militaire que la nation malienne a rendu un dernier hommage à Ibrahim Boubacar Keïta, qui a dirigé le pays pendant 7 ans. Pour l'occasion, famille, collègues, autorités religieuses et camarades politiques ont massivement fait le déplacement. Tour à tour, sa petite-fille, Aminata Jeanne Keïta, son fils, Boubacar Keïta, ses camarades politiques, Maître Kassoum Tapo et Amadou Keïta, son chef de cabinet, Baba Aguib Aïdara, et le grand chancelier, Amadou Sagafour Gueye, ont pris la parole pour parler du défunt et témoigner. Des témoignages unanimes sur l'homme de culture qu'il était, l'homme politique, partisan du dialogue et enfin, l'homme tout court avec ses moments d'humeur, ses qualités et ses défauts. Moussa Mara, qui a été son premier ministre, souhaite que ce décès, dans une période assez délicate de la nation, soit une occasion de cohésion entre les Maliens. Après les hommages de la nation, la dépouille a été remise à la famille pour une inhumation dans l'intimité familiale. Mohamed Danioko pour VOA Afrique, Bamako.
Au Nigeria, des djihadistes ont tué 2 personnes et kidnappé 20 enfants dans l'état de Borno, où sévit une insurrection islamiste qui dure depuis plus de 10 ans. Des combattants du groupe État islamique d'Afrique de l'Ouest, l'ISWAP, ont pris d'assaut jeudi le village de Pijemi, dans le nord-est, près de la ville de Chibok, tuant 2 hommes et saisissant 13 filles et 7 garçons, selon les habitants et le chef de la communauté. Un responsable du gouvernement local a confirmé l'attaque, mais n'a pas donné de détails sur les enlèvements. Des dizaines de Soudanais ont manifesté aujourd'hui devant les maisons des victimes de la répression d'opposants au coup d'État, scandant le pouvoir au peuple auprès des familles endeuillées. Après la prière musulmane de la mi-journée, la foule est partie de la mosquée pour répondre à l'appel de la société civile à la solidarité avec les familles des 73 manifestants tués depuis le coup d'État du 25 octobre du général Abdel Fattah al-Burhan. En Ouganda, le célèbre écrivain Kakwenza Rukira Bacheja, arrêté pour propos offensants contre la famille du président Yoweri Museveni, a comparu vendredi devant un tribunal lors d'une audience virtuelle, en marge de laquelle son avocat a affirmé que son client a été torturé. Les détails avec Ginny Kapumbuvila.
C'était la première apparition publique de Kakwenza Rukira Bacheja, 33 ans, depuis son arrestation le 28 décembre, après avoir publié sur les réseaux sociaux des commentaires critiques sur le président Yoweri Museveni et son fils Muhoozi Kainerugaba. Son avocat Eron Kiza a affirmé vendredi aux journalistes que les cicatrices constatées sur son client lors d'un examen médical à la prison sont des marques évidentes de torture. Une décision sera rendue le 25 janvier. Les États-Unis, l'Union européenne et des organisations de la société civile ont appelé à sa libération. Virulent critique ougandais, Kakwenzaru Kirabashaija a publié en 2020 le roman satirique The Greedy Barbarian, qui signifie le barbare gourmand, décrivant un pays imaginaire gangréné par la corruption.
L'ONU enquête sur un massacre présumé près de Bria, en Centrafrique, qui aurait fait plusieurs dizaines de victimes lors d'une opération conjointe les 16 et 17 janvier des forces armées centrafricaines et de mercenaires du groupe russe Wagner. Cette opération visait le groupe armé l'UPC, l'Union pour la paix en Centrafrique. Plus de 30 civils auraient été tués et les auteurs de cette opération militaire 543210 et les auteurs de cette opération militaire auraient effectué des pillages. En Tunisie, 4 personnes, dont une fillette, ont péri et 7 autres sont portées disparues après le naufrage d'une embarcation de migrants au large de la ville de Sfax. Le point avec Rosine Mounezero.
L'embarcation partie des côtes tunisiennes a coulé dans la nuit de mercredi à jeudi devant les îles de Kerkena au large de Sfax, la deuxième ville du pays, a indiqué Oussem Edine Jebabli, porte-parole de la garde nationale. Selon les témoignages, il y avait 32 migrants à bord, tous tunisiens. Nous en avons sauvé 21 et avons rapidement repêché un premier corps, a précisé le responsable. Les gardes-côtes ont repêché 3 corps supplémentaires, dont celui d'une fillette âgée d'une dizaine d'années, et les opérations de recherche se poursuivent, a ajouté le porte-parole. Selon l'OHCR, plus de 2500 personnes sont mortes ou sont portées disparues en mer en 2021 en essayant de rejoindre l'Europe. Sur les plus de 115 000 migrants parvenus en Europe l'an dernier, plus de 20% venaient de la Tunisie, qui traverse une grave crise politique depuis le coup de force du président Kais Saied.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Russes et Américains ont rendez-vous la semaine prochaine après des pourparlers qu'ils ont qualifiés de francs vendredi à Genève. Les chefs de la diplomatie américaine et russe essayent de faire baisser la tension sur des craintes d'invasion de l'Ukraine. Nanit Talani.
La rencontre entre Anthony Blinken et Sergueï Lavrov a duré un peu moins de 2 heures à Genève. Le ton a été franc et substantiel, selon M. Blinken, qui a aussi noté une certaine détente après des semaines d'escalade verbale. Pour sa part, M. Lavrov a relevé que lui et son homologue américain sont d'accord qu'un dialogue raisonnable est nécessaire pour que l'émotion retombe. Le chef de la diplomatie américaine a demandé à la Russie de prouver qu'elle n'a pas l'intention d'envahir l'Ukraine et de retirer ses troupes de la frontière. Le Kremlin dément toute volonté d'invasion et demande le non-élargissement de l'OTAN à l'Ukraine et un retrait de l'Alliance d'Europe de l'Est. « Inacceptable », répondent les Occidentaux. M. Blinken a convenu de coucher sur le papier des idées la semaine prochaine à destination de Moscou. Les deux hommes ont convenu de se retrouver et M. Blinken n'a pas écarté un sommet Joe Biden-Vladimir Poutine. Une idée que M. Lavrov a jugée prématurée.
L'Iran mène des négociations avec la Russie pour la construction de 2 nouvelles unités de production dans la seule centrale nucléaire du pays, a déclaré un responsable de l'Organisation de l'énergie atomique du pays. Ces négociations surviennent au lendemain d'une visite de 2 jours du président iranien Ebrahim Raisi à Moscou, durant laquelle il s'est dit déterminé à renforcer les relations avec la Russie. Les talibans tiendront la semaine prochaine à Oslo des discussions avec les Européens et Américains centrées sur la situation humanitaire critique dans le pays pour leur première visite officielle en Occident depuis leur retour au pouvoir en août. Une délégation du mouvement islamiste sera en Norvège du 23 au 25 janvier et y rencontrera des représentants des autorités norvégiennes et d'autres pays alliés ainsi que des membres de la société civile afghane. Au Yémen, au moins 70 personnes ont été tuées, une centaine d'autres blessées dans une frappe aérienne contre une prison tenue par les rebelles. Cette attaque est attribuée à la coalition sous commandement saoudien et témoigne d'une vive escalade de la violence. Quelques heures plus tôt, hier soir, cette coalition, intervenant depuis 2015, a revendiqué un raid contre la ville de Hodeïda dans l'ouest. L'ONU s'est déclarée très préoccupée par ces violences. La frappe aérienne contre cette prison n'est pas acceptable, affirme la présidence norvégienne du Conseil de sécurité de l'ONU. écouter LMA sur VOA Afrique et voaafrique.com. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous. Place au dossier du jour. Le dialogue politique en Côte d'Ivoire a repris jeudi. Ce dialogue entre le pouvoir et les principaux partis d'opposition vise à décrisper le climat politique après les violences électorales de la présidentielle d'octobre 2020 qui avait fait 85 morts et 500 blessés. Pour parler des modalités des échanges entre la classe politique ivoirienne, Georges Ebion a joint à Abidjan Anicet Nyanzi, président de l'UDCI, l'Union pour la démocratie citoyenne.
Et pour cette phase du dialogue politique qui s'ouvre, le gouvernement a recensé environ 83 propositions qui ont été regroupées en 5 grands thèmes. La recomposition de la commission électorale indépendante. D'aucuns trouvent qu'elle n'est pas équilibrée. D'autres pensent qu'il y a de nouvelles formations qui doivent y être intégrées. Le second thème, c'est les mesures d'accompagnement pour décrypter l'environnement politique. Tout le monde regarde du côté du gouvernement ou des gestes. Il y a la révision de la liste électorale qui, dans le moment, se fait annuellement, mais qui, très souvent, n'est pas le cas. Il y a le code électoral. En certains points, d'aucuns pensent qu'on pourrait faire quelques aménagements. Et il y a la réconciliation nationale, qui est une question qui est encore pendante et dont on va discuter.
Vous représentez l'UDCI à ce dialogue, un parti dont vous êtes le président, mais vous êtes aussi membre de la mouvance présidentielle. Quelle part ont pris les grosses pointures de l'opposition que sont le PDCI, le PPACI et le FPI à cette rencontre?
L'UDCI que je représente à cette phase de négociation a toujours été présente à toutes les étapes. Il est donc tout à fait naturel que pour cette cinquième phase qui s'ouvre, nous soyons présents à la table de négociation. Tout ce que vous venez de citer sont tous aussi présents et nous espérons que, vu la qualité des participants, vu les sujets mis sur la table, nous pourrons, comme cela a été le cas pour les précédentes phases, nous entendre sur l'essentiel et qui arrange toutes les parties.
Alors d'autres acteurs, dont des ONG et surtout une politique de haut calibre comme Mme Simone Gbagbo, ont demandé à être associés au dialogue. Comment éviter l'exclusion, selon vous?
Pour ce qui nous a été donné de constater, c'est que ceux qui sont à la table de négociation, ce sont en majorité ceux qui ont déjà participé à toutes les phases jusqu'à la cinquième qui s'ouvre maintenant. Entre-temps, certaines formations politiques sont nées, des plateformes ont été créées et le gouvernement a jugé nécessaire de convier certains à la table de négociation selon des critères qui lui sont propres. Pour ceux qui n'ont pas été appelés pour cette phase, nous pensons que pour les prochaines, ils seront certainement conviés si le gouvernement le juge nécessaire. De là dit, nous pensons que ce dialogue, comme les précédents, est bien inclusif.
Anicet Nyanzi, conseiller économique et social, président de l'UDCI, l'Union pour la démocratie citoyenne. Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24. L'Ouganda a rouvert les écoles ce mois-ci après une fermeture de près de 2 ans causée par la pandémie de Covid-19. La majorité des étudiants sont revenus, mais beaucoup d'autres n'ont pas pu reprendre les classes à cause de la paupérisation des familles. Un reportage de Halima Atoumani, relaté par Nathalie Barge.
Rania Kiyomuangi et ses 5 frères et sœurs ne retournent pas à l'école. Lorsque les écoles ougandaises ont fermé en mars 2020 pour plus de 15 millions d'élèves, Rania venait d'entrer au lycée avec le rêve de devenir médecin.
Je me sens mal parce que je vois mes amis, mes voisins nous appeler, nous dire qu'ils retournent à l'école, nous demander « Quand est-ce que tu retournes à l'école ?» et je ne sais pas quoi dire.
L'Ouganda a rouvert les écoles le 10 janvier. Le gouvernement a lancé une campagne visant à garantir le retour de tous les enfants. Le ministère de l'Éducation a publié des directives pour que les écoles n'augmentent pas les frais de scolarité. Mais certaines familles ne peuvent toujours pas payer. La ministre de l'Enseignement primaire, Joyce Moriku Kadusu, a déclaré que les personnes dans cette situation devraient trouver d'autres moyens pour s'assurer que les enfants reprennent leurs études.
Certains parents n'ont peut-être pas d'argent, mais ils peuvent avoir de la nourriture. Dans les écoles rurales, ils peuvent avoir du manioc, du maïs et des haricots. L'école peut dire, d'accord, vous n'avez pas d'argent, mais êtes-vous capable d'apporter de la nourriture que nous pouvons traduire en argent?
Olivia Naïga, ancienne enseignante et mère de Rania, réconforte ses 6 enfants avec une séance biblique. Elle a été licenciée et n'a plus les moyens de les renvoyer à l'école. La suggestion de la ministre ne lui a pas plu.
Nous avons essayé de ramener Rania où elle était au lycée, plaidant que nous payerons progressivement. Il n'était pas prêt à accepter et je vois que ma fille grandit. Ce n'est pas facile de rester à la maison pendant 2 ans avec une fille qui grandit.
L'UNICEF estime que pendant la fermeture des écoles, les 15 millions d'élèves en Ouganda ont perdu 2,9 milliards d'heures d'apprentissage par mois. Beaucoup de ces enfants ont commencé à travailler pendant le confinement. Selon Mounir Safieldine, représentant de l'UNICEF dans le pays, les familles ne renonceront pas facilement à ce revenu.
Pour faciliter le retour à l'école, il faut absolument se pencher sur divers systèmes de soutien, des programmes de soutien. Je comprends aussi qu'il y a ici un compromis. Ces systèmes de soutien comme le système de protection sociale à l'endroit des familles qui vivent dans la pauvreté devaient être encouragés.
Plusieurs ONG ont dénoncé la fermeture des écoles en Ouganda, qui a été la plus longue dans le monde. Ce qui ne doit plus jamais se produire, a tweeté l'UNICEF, estimant qu'il est du devoir et de l'intérêt des parents d'aider leurs enfants à retourner à l'école.
Le chef du commandement américain pour l'Afrique affirme que les menaces pour la sécurité augmentent sur le continent. Dans sa première interview filmée depuis qu'il a pris le commandement il y a 2 ans, le général Stephen Townsend parle de ses préoccupations, dont la propagation des groupes extrémistes violents, le rôle des mercenaires russes, les percées militaires de la Chine et les menaces de l'Iran. Il s'est entretenu avec la correspondante de la VOA au Pentagone, Carla Babb. Récit Eric Manirakiza.
L'armée américaine a confirmé les rapports sur la présence au Mali de mercenaires russes connus sous le nom de groupe Wagner. Le général Stephen Townsend, chef du commandement américain pour l'Afrique, a déclaré jeudi en exclusivité à la VOA que la junte malienne a fait appel à des centaines de combattants étrangers pour protéger son régime.
Wagner est au Mali, ils sont, nous pensons, plusieurs centaines maintenant. Ils se déploient avec le soutien de l'armée russe. C'est une grande préoccupation pour nous. Nous les avons vus en République centrafricaine, au Soudan et en Libye. Ils ne suivent les règles de personne, d'autres que le leur. Ils vont exploiter le pays, ils vont enfreindre la loi, ils violent les droits de l'homme de manière flagrante, ils vont tuer les innocents et des civils, et quand le peuple malien en aura assez d'eux, ils ne partiront pas.
Le général Townsend, qui a pris la tête du commandement américain pour l'Afrique en 2019, a également déclaré que l'adversaire mondial le plus actif en Afrique n'est pas la Russie, mais la Chine. Pékin, dit-il, protège des milliards de dollars d'investissements sur le continent avec des investissements militaires rampants, réguliers et stratégiques. En 2017, l'armée chinoise a ouvert une base à Djibouti, à quelques kilomètres seulement du camp Le Monnier, la seule base militaire des États-Unis en Afrique. Le général a déclaré que Pékin se tournait désormais vers la côte ouest de l'Afrique avec l'intention de construire une base aérienne militaire ou une installation navale en Guinée équatoriale.
Ils posent des jalons dans tous les pays de la côte atlantique. Ils savent qu'ils n'obtiendront pas un oui dans la plupart des cas. Et nous pensons qu'ils ont en ce moment la faveur de la Guinée équatoriale. Nous ne leur demandons pas de choisir entre la Chine et nous, mais de tenir compte de leurs autres partenaires internationaux et de leurs préoccupations, car une base militaire chinoise en Guinée équatoriale inquiète beaucoup les États-Unis et tous les autres partenaires.
Le centre de commandement américain pour l'Afrique a cependant perdu certains financements pour des exercices militaires avec des partenaires africains. Et depuis un an, M. Townsend dit avoir fait la navette en Somalie pour soutenir les troupes.
La menace d'Al-Shabaab s'accroît si une pression accrue n'est pas appliquée sur Al-Shabaab. Je crains qu'il y ait une attaque importante d'Al-Shabaab. Nous avons vu des attentats suicides à la bombe à Mogadiscio. Au cours des deux dernières semaines, je pense qu'il se développe et qu'il constitue une menace croissante.
L'attaque du 12 janvier contre la capitale somalienne a fait au moins 8 morts.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Sénégal, la confiance et l'espoir suscités par l'équipe nationale se sont dissipés. Les fans de foot sont devenus sceptiques quant aux chances des Lions de la Teranga à remporter la CAN qui se déroule au Cameroun. Le reportage de notre correspondant à Dakar, Sedina Abagay.
Présentée comme la meilleure équipe sur le papier, l'équipe nationale du Sénégal peine à donner des résultats sur le terrain. Un fanatique des Lions comme Badara Thiam ne cache pas sa déception.
Actuellement, je n'ai même pas le courage de parler, je ne veux même pas parler des joueurs, parce que c'est un peu décevant de voir une telle équipe qui possède de tels joueurs qui ne peuvent même pas exprimer le jeu. Bon, je ne dirais pas que c'est les joueurs, mais aussi je pense que c'est l'incompétence du coach à l'utiliser, il est incompétent. Il n'y a aucun fond de jeu sur ce que font les joueurs. Je dirais aussi d'avoir une volonté, le courage de pouvoir se donner à fond comme le font certains joueurs comme le Cameroun et les autres joueurs qui jouent la Guinée. Ils n'ont pas aussi des joueurs comme le Sénégal, mais ils se donnent à fond. Bon, nous les supporters, on n'a même pas envie de regarder les matchs, c'est décevant, c'est regrettable quoi.
De son côté, Cheikh Ndaw pense que les coéquipiers de Sadio Mané n'ont pas encore assimilé la mise en place tactique du sélectionneur national.
Je constate une phase de poule très décevante des Lions du Sénégal, certainement très gêné par le système de jeu qui a été mis en place par le coach Aliou Cissé. Mais bon, on constate aussi un réel manque d'engagement, de rigueur, de détermination sur certains joueurs. Mais malgré tout, on garde espoir en espérant une autre image des Lions pour les phases finales qui sont à venir, car on va vraiment gagner cette coupe.
Des Lions pitoyables, sans croc et sans envie, c'est le constat de Ibou Ndaw. Pour lui, avoir de bons joueurs ne suffit pas à remporter la CAN.
Cette situation est très déplorable parce que les Lions ne donnent pas envie de jouer parce qu'ils pensent à des choses qui n'existent pas en Afrique. Afrique, pour gagner quelque chose, il faut se battre, être un lion. Et là, ils ne se répondent pas à leur nom. Est-ce qu'il y a un entraîneur dans l'équipe nationale? Je me pose cette question. Moi, je ne trouve pas.
Après un premier tour pas très convaincant, les Lions de la Teranga ont fait l'objet de vives critiques. Pour les Sénégalais, il faudra montrer plus de courage et de détermination pour espérer remporter la première Coupe d'Afrique des Nations de l'histoire du pays. Sedina Abagay, Dakar pour VOA Afrique.
Fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute la rédaction et à Michel Joseph et Lionel Gaïma de l'équipe de production qui ont permis la réalisation de ce journal. Idriss Fall était à la rédaction en chef, au micro Clermont Azibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, un seul site internet, voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayegouya, Burkina Faso, et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.